C'est vrai qu'on vit une époque un peu étrange. On est submergé d'infos partout, tout le temps. Et pourtant, paradoxalement, on se sent peut-être plus vulnérable à la manipulation.
C'est exactement le point de départ, je crois, du livre d'Adnan Benchakroun, Fabrique de l'opinion. Un titre assez évocateur d'ailleurs.
Oui, Anatomie des manipulations médiatiques. Il explore justement ça, comment les pouvoirs, quels qu'ils soient, peuvent façonner ce qu'on pense. On va s'appuyer sur des extraits de son livre pour cette discussion. J'ai trouvé la démarche de l'auteur touchante, vous savez, un retraité marocain qui observe son époque.
Oui, qui voit les techniques de manipulation se perfectionner et qui veut laisser une sorte de legs intellectuels, c'est le terme qu'il emploie, pour aider à développer l'esprit critique.
C'est ça.
Alors, notre but ici, c'est pas de tomber dans la paranoïa, loin de là. Plutôt de décortiquer ensemble quelques stratégies qu'il décrit, pour comprendre, simplement. Il en liste 10, et ce qui est vraiment bien fait, je trouve, c'est qu'il y a toujours l'avis de l'avocat du diable.
Ah oui, cette perspective critique intégrée, ça apporte beaucoup de nuances, c'est important.
Tout à fait.
Alors, attaquons peut-être par une stratégie qui semble vieille comme le monde, la distraction. Chapitre 1, le fameux Panem et Circens, mais version moderne.
C'est ça. L'idée, c'est d'occuper l'espace médiatique, l'esprit collectif, avec du futile, enfin, des buzz, des clashs, de la télé-réalité.
Pour détourner l'attention des sujets de fond, les réformes importantes, les vrais enjeux sociaux, quoi.
Exactement. Le livre donne des exemples assez parlants. Hein. Un fait divers qui fait la une pile au moment d'un vote sensible au Parlement. Ou alors, des grands événements sportifs qui servent un peu d'écran de fumée pour faire passer des annonces impopulaires.
Et le numérique là-dedans, il joue quel rôle? Parce que j'imagine qu'il amplifie tout ça.
Ah oui, énormément. Les algorithmes, ils sont conçus pour favoriser ce qui crée de l'émotion rapide, du clic. Donc, ça accélère cette saturation par l'accessoire et ça dilue l'information qui demande plus de réflexion.
Oui, mais attention, l'auteur lui-même nous alerte avec son avocat du diable. C'est pas si simple. Le divertissement, c'est aussi un besoin humain, non? Besoin d'évasion?
Bien sûr. Et puis, qui décide de ce qui est utile ou futile? C'est subjectif.
Exactement. Et parfois, cette distraction, c'est peut-être même un choix conscient face à une actualité trop lourde ou une certaine fatigue démocratique, peut-être.
C'est une nuance essentielle, oui. Bon, passons à une autre stratégie très, très actuelle, celle-là. Chapitre 10. Mieux connaître le public que lui-même. Là, on entre dans l'ère du big data.
Ah, le fameux big data. Toutes nos traces numériques.
Chaque clic, chaque like, chaque recherche, tout ça, ça crée des données. Et analysées en masse, elles permettent de dresser des profils comportementaux incroyablement précis.
C'est là que ça commence à faire un peu peur quand même. Parce que le but, c'est pas juste de nous connaître.
Non, c'est de prédire. Et surtout, d'influencer nos comportements futurs. Nos achats, bien sûr. Mais aussi nos opinions, nos votes.
Le livre parle de Cambridge Analytica, évidemment. L'exemple type. Utiliser les données Facebook pour cibler très finement les électeurs pendant la campagne du Brexit ou celle de Trump.
Voilà. Avec des messages sur mesure pour jouer sur les émotions, les peurs, les désirs de chacun.
Les conséquences sont doubles, en fait. D'un côté, l'atteinte à la vie privée, c'est clair, mais de l'autre, ça fragmente aussi le débat public. Chacun dans sa bulle d'infos.
Et les fameuses bulles algorithmiques, oui. On ne voit plus que ce qui confirme nos propres opinions et on est de moins en moins exposé à des points de vue différents.
Mais là encore, l'avocat du diable intervient. Est-ce qu'on n'apprécie pas aussi le confort de ces services personnalisés? Des suggestions qui tombent pile.
C'est vrai que ça peut être pratique. Et puis, la notion de vie privée elle-même, elle évolue, non? Est-ce qu'elle a encore le même sens aujourd'hui?
Certains semblent prêts à échanger un peu de cette vie privée contre de la commodité, ou même
à déléguer certaines décisions à des algorithmes qu'ils jugent plus efficaces.
Oui, c'est une question intéressante.
Si on relie ces deux points, la distraction de masse et ce ciblage hyper personnalisé, on voit bien le fil rouge du livre. La manipulation change de visage. Elle est plus subtile, plus invisible.
Elle joue sur nos failles psychologiques, nos biais cognitifs, comme on dit. Ces raccourcis de pensée qui nous trompent parfois. Et sur nos émotions, bien sûr.
C'est exactement ça. Mais l'intention de Benchakroun, c'est pas de nous accabler ou de nous faire peur. C'est plutôt de nous équiper. Son livre, c'est un peu un manuel d'autodéfense intellectuelle.
Comprendre les mécanismes, c'est déjà le premier pas pour y résister. Pour ne plus être juste un consommateur passif d'infos et d'opinions.
Oui, reprendre un peu le contrôle.
L'idée, c'est de regagner notre liberté d'attention, comme il dit. Être plus conscient de là où on la porte.
Et ça nous laisse avec une question de fond, je crois, pour tout le monde. Si nos choix, nos désirs sont de plus en plus anticipés, voire orientés par des systèmes qui nous connaissent si bien...
Quelle est la part réelle de notre libre arbitre?
Dans nos choix de consommation, mais aussi nos choix citoyens.
Voilà. Comment on fait pour cultiver son propre jugement, son esprit critique, dans un environnement qui est en partie conçu pour nous influencer en douceur? C'est la grande question.